en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. À l'occasion du 90e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, le Musée de l'Armée, organisé en partenariat avec l'Université permanente de la ville de Paris, un cycle de conférences autour de quatre armistices, intitulé « Entre guerre et paix, les armistices ». La première conférence, prononcée le 22 septembre par Thierry Lenz, avait pour objet un armistice signé en 1813, peu connu, l'armistice de Pleiswitz. La deuxième conférence, de Jean-Jacques Becker, le 24 septembre, portait sur l'armistice de 1918. La troisième conférence, le 25 septembre, du colonel Bieuville, revenait sur l'armistice du 26 janvier 1871. Quant à la quatrième conférence, prononcée le 29 septembre par Vincent Giraudier, elle s'intéressait à l'armistice, ou plus exactement aux armistices, de juin 1940. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de ces quatre conférences. Vous trouverez dans la médiathèque de Canal Académie chacune de ces interventions. Commençons avec Thierry Lenz. Je rappelle qu'il est directeur de la Fondation Napoléon et aussi spécialiste de la période napoléonienne. Il a notamment publié une nouvelle histoire du consulat et de l'Empire en quatre tomes parus aux éditions Fayard. Plus dernièrement, il a assuré la direction aux éditions Talendier d'un dictionnaire des institutions politiques et administratives et de cour du consulat et de l'Empire, indispensable outil de travail pour qui s'intéresse à la période. Écoutons-le évoquer maintenant l'armistice de Pleiswitz, grande erreur stratégique de Napoléon en pleine campagne de 1813. Retrouvons Thierry Lenz dans l'auditorium du Musée de l'Armée aux Invalides.
Comme il vous a été indiqué, je devais vous parler des armistices de 1813 et 1814. En réalité, j'ai décidé de me concentrer sur le plus important d'entre eux, l'armistice de Pleiswitz, qui a été signé le 4 juin 1813, et dont on va voir tout à l'heure que c'est un armistice extrêmement important et qui a causé quelques soucis à Napoléon. Mais d'abord, et le professeur vous le disait tout à l'heure, l'armistice avec un 1 majuscule, c'est l'armistice dans la mémoire de plusieurs générations, c'est bien sûr l'armistice du 11 novembre 1918, mais c'est évidemment un terme et une pratique qui n'ont pas été inventés à la fin de la Première Guerre mondiale, ni même d'ailleurs à la fin de la Deuxième. Cette pratique remonte à des temps extrêmement anciens, et en tout cas, elle a toujours été connue dans les conflits à l'époque moderne et contemporaine. Le mot lui-même figure dans le dictionnaire de l'Académie française depuis 1762 comme synonyme de suspension d'armes, on vous le disait tout à l'heure, ce qui découle d'ailleurs de l'étymologie du mot, arma les armes, et stitium dérivé de stare, s'arrêter. Émilie Robbe, qui est la conservatrice de l'époque contemporaine, vous donnera encore plus d'explications sur l'étymologie latine du mot, puisqu'elle m'a fait tout à l'heure un exposé beaucoup plus complet que ça. Donc, le bon usage de la langue française voulait d'ailleurs qu'au XVIIIe, on préfère l'expression « suspension d'armes » au mot « armistice ». En 1782, dans son dictionnaire critique de la langue française, Jean-François Ferraud écrivait « Le terme « armistice » était rejeté de plusieurs, c'est un mot de gazette ». On dit plutôt « suspension d'armes ». L'Académie le met sans remarque et sans donner d'exemple. Je crois qu'il n'est pas du beau style et que « trêve », « suspension d'armes » sont préférables. Un armistice était donc déjà défini, comme l'a fait le dictionnaire de l'Académie cette fois-ci de 1932, comme « l'arrêt provisoire des hostilités convenu par les combattants ». Donc dès l'origine, le mot était masculin. Et le dictionnaire de l'Académie de 1762 a été critiqué pour l'avoir donné au féminin, ce qui a été rectifié par la suite. Armistice ou suspension d'armes, c'est donc un acte juridique, et si l'on ose dire militaire, qui n'est pas inconnu en histoire, et en histoire napoléonienne en particulier. Alors passons rapidement sur le fait que Napoléon lui-même se trompait souvent sur le mot. Il confondait amnistie et armistice, mais il faisait beaucoup d'autres erreurs qui étaient des italianismes dans son langage du quotidien. Donc oublions cette particularité pour rappeler qu'une grande quantité de textes de ce type, donc des suspensions d'armes, ont été signés un peu partout pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, au niveau d'un théâtre d'opération complet, on va en donner quelques exemples, comme au niveau d'un champ de bataille ou d'un siège. Il arrivait très souvent que l'on signe des suspensions d'armes. À cette époque, l'armistice était un outil assez habituel dans le déroulement des conflits, plutôt d'ailleurs des conflits entre armées que des conflits entre États, puisqu'il pouvait être négocié directement par les commandants en chef d'armée. Alors, exemple napoléonien, pour la seule campagne d'Italie de 1796-1797, elle-même d'ailleurs consécutive à la rupture de l'armistice franco-autrichien du 31 décembre 1795, Napoléon a négocié et signé pas moins de 6 armistices. Le premier, le 28 avril 1796, à Cherasco avec le roi de Sardaigne. Le 9 mai 1796, un armistice acceptant le retrait des hostilités des troupes du duc de Parme. Le 17 mai, donc une semaine plus tard, armistice avec les troupes du duc de Modène. Le 5 juin 1796, armistice avec les troupes du roi de Naples. Le 23 juin 1796, à Bologne, un armistice extrêmement célèbre, l'armistice signé avec le pape. Et enfin, le 7 avril 1797, armistice avec les Autrichiens, signé à Judenburg, juste à l'entrée donc, des territoires héréditaires des Habsbourg. D'ailleurs, la paix de 1797 avec les Autrichiens se déroule avec toutes les formes juridiques, en quelque sorte, puisqu'il y a d'abord l'armistice signé à Judenburg, il y a ensuite les préliminaires de paix de Leoben, puis le traité de Campo Formio, qui aurait dû déboucher sur le congrès de Rastatt. Donc là, on voit qu'on a le panel complet des actes juridiques possibles entre armées. Sous l'Empire, évidemment, quelques suspensions d'armes sont restées célèbres. La première qui vient à l'esprit, c'est celle qui a été signée au château d'Austerlitz le 6 décembre 1805, 4 jours après la bataille, et qui figeait la ligne de front, qui interdisait de nouvelles levées aux Autrichiens en attendant le traité de paix qui a été signé, lui, le 26 décembre 1805 à Presbourg. Autre armistice marquant, c'est celui du 21 juin 1807, signé avec la Russie et qui préfigure, lui, le traité de Tilsit du 8 juillet suivant. Ces textes auraient pu être destinés à faire souffler les belligérants, à leur permettre de se reformer pour le cas où on ne s'entendrait pas sur la paix définitive. Alors, le bruit des armes à peine suspendues pourrait se faire entendre à nouveau si on ne parvenait pas à l'accord, mais dans ces cas-là, ce ne fut pas le cas. La situation de l'armistice que nous allons étudier maintenant est totalement différente, et c'est probablement l'armistice le plus important signé par Napoléon. Il l'a été pendant la campagne de 1813. Il mérite qu'on s'y arrête vraiment particulièrement, d'abord parce qu'il nous montre que l'armistice ne conduit pas forcément à la paix, et puis, deuxièmement, il est important parce que ça a été une erreur stratégique de la part de Napoléon qui a abouti à une véritable catastrophe qui a été la bataille de Leipzig. Nous parlons donc de l'armistice de Pleiswitz, je vais peut-être vous l'appeler, Pleiswitz, qui a été signé le 4 juin 1813. Nous allons démarrer un petit peu avant, puisque nous revenons de Russie avec Napoléon, et qu'en quelques mois, Napoléon réussit à reformer une armée digne de ce nom, même si elle a des insuffisances structurelles, comme la faiblesse de la cavalerie ou le manque d'eau de vie, qui est aussi très important dans les armées napoléoniennes de l'époque, et puis qui souffre aussi d'une inexpérience des recrues. Napoléon repart en guerre pour repousser à ce moment-là ses deux adversaires principaux, qui sont les Russes et les Prussiens, et en les repoussant, il va éviter que l'Autriche et les États de la Confédération du Rhin ne basculent dans la coalition. Alors, la victoire est bien au rendez-vous dans les plaines de Saxe, mais Napoléon aurait pu sans doute en tirer davantage, notamment empêcher Papa François, donc son beau-père, l'empereur d'Autriche, de l'attaquer. Mais malheureusement, ces succès ne vont servir à rien, ou à rien d'autre en tout cas, qu'à accélérer un processus engagé bien avant la reprise des combats. C'est ce rapprochement entre la coalition, pour le moment uniquement russo-prussienne, mais à laquelle va se greffer la Suède, dirigée à ce moment-là, ou gouvernée en tout cas, par un ancien maréchal de l'Empire, et puis qui essaye à tout prix de faire rejoindre l'Autriche, de faire rejoindre la coalition à l'Autriche, qui est à cette époque-là la puissance dominante du centre européen. En fait, le coup le plus rude qui va être porté à Napoléon à ce moment-là, c'est celui de ce ralliement de l'Autriche à la coalition, qui est dû à deux facteurs. La première, c'est une sorte de naïveté diplomatique de Napoléon, qui pense que, parce qu'il est allié familialement à l'empereur d'Autriche, parce que son fils, le roi de Rome, est en quelque sorte un archiduc autrichien, on le laissera tranquille profiter de son trône. Ça, c'est la naïveté. Puis la deuxième, c'est le cynisme et l'habileté diplomatique du chancelier autrichien qui s'appelle Metternich, comme vous le savez, et qui pousse Napoléon à la faute. En pleine offensive, en effet, Metternich va réussir à imposer un armistice qui va déboucher sur une mascarade diplomatique qui est le Congrès de Prague. Et c'est donc de cela dont nous allons parler cet après-midi. Donc à l'ouverture de la campagne 1813, le principal enjeu devient de plus en plus le maintien de la dynastie des Bonaparte sur les trônes européens. Alors c'est vrai d'abord pour le trône westphalien, le trône espagnol, le trône napolitain, mais ça devient de plus en plus vrai pour le trône français. Si la Russie et la Prusse sont des ennemis déclarés, s'il faut évidemment arrêter l'avancée de ces armées, de leurs armées, pardon, en Allemagne, l'Autriche s'est entre-temps autoproclamée médiatrice du conflit, pour le moment médiatrice neutre, et c'est un des objectifs de Napoléon que de la faire rester neutre. Le 15 avril 1813, Napoléon quitte Saint-Cloud et 11 jours plus tard, il arrive à Erfurt, son objectif étant de débloquer, de libérer Dresde, qui est la capitale de la Saxe à ce moment-là, qui vient d'être occupée par les Russo-Prussiens. Le 1er mai 1813, il part donc à l'attaque avec 155 000 hommes et occupe, pratiquement sans coup férir, Leipzig. Le 2 mai, les colonnes françaises sont prises à partie aux environs de Lutzen, à environ 25 km de Leipzig. L'affrontement se transforme en bataille rangée. 85 000 Français parviennent finalement à repousser 140 000 Russes et Prussiens. Le 8 mai 1813, conformément à son objectif premier de la campagne, Napoléon fait son entrée à Dresde. Les 20 et 21 mai ont lieu une bataille gagnée encore par Napoléon, c'est la bataille de Bautzen. Nouvelle victoire, mais à nouveau une victoire qui est mal exploitée parce que l'armée française manque de cavalerie pour poursuivre les vaincus. Mais en 3 semaines, les Russo-Prussiens ont subi 2 défaites cuisantes et ils ont reculé de près de 350 km. Le 27 mai, la grande armée atteint la Katzbach et l'Oder. Pendant que Oudinot, avec un corps, marche sur Berlin, la situation s'est retournée quelques mois après le désastre de Russie. Et c'est alors, pourtant, que Napoléon va commettre ce que Jomini a appelé plus tard sa plus grande erreur pendant sa carrière de général en chef. La reprise des opérations militaires n'avait pas ralenti, et d'ailleurs elle ne ralentit jamais, les activités diplomatiques. Du côté des coalisés, on attendait l'entrée en guerre de la Suède, en espérant que la médiation autrichienne soit un échec et puisse aboutir à l'adhésion de l'Autriche à la coalition. Ce dernier espoir n'était pas vain, n'était pas stupide. Le tsar avait reçu la promesse de François d'Autriche que bientôt il le rejoindrait. Et on peut dire ici que la duplicité de Papa François était incontestable. La virtuosité de Metternich fut de réussir à bloquer les réactions françaises contre l'idée d'une médiation autrichienne et puis d'aller plus loin. Cela permettait d'abord cette médiation, c'est-à-dire nous sommes médiateurs de ce conflit qui déchire l'Europe, on va essayer d'arranger les choses, etc. Bon, ça ne fonctionne jamais, hein, ce genre de choses, mais on y croit de temps en temps, et là, Napoléon va y croire. Cette médiation permet déjà de gagner du temps. Elle fait gagner du temps aux deux belligérants, histoire de convaincre l'Autriche. Et puis, elle permet à l'Autriche, elle aussi, de gagner du temps pour, jouer la comédie de la neutralité, puis renforcer ses forces en cas d'entrée dans le conflit. Dès le début de la médiation, des émissaires autrichiens prennent le chemin des différents quartiers généraux. Bubna va chez les Français, Stadion se rend chez le tsar. Et c'est là que les choses vont se passer, puisque Stadion a des discussions avec Nesselrod, le ministre russe des Affaires étrangères, et il pose nettement les conditions d'entrée en guerre de son pays. Rétablissement des frontières de l'Empire des Habsbourg telles qu'elles étaient avant 1805, reconstitution de la Prusse telle qu'elle avait été prévue par un traité précédent, le traité de Kalisch, c'est-à-dire avec une récupération de la partie prussienne de la Pologne, dissolution de la Confédération du Rhin, qui était cet ensemble créé par Napoléon en 1806 au cœur de l'Allemagne, et surtout fin du duché de Varsovie, qui était cette fausse Pologne que Napoléon avait placée au milieu des trois grands acteurs de la politique orientale européenne, la Russie, l'Autriche et la Prusse. Nesselrod ajoute que son propre souverain souhaite la séparation de la Hollande et de la France, le rétablissement des Bourbons en Espagne et le retrait total des Français d'Italie. Stadion donne son accord pour la cour de Vienne, ce qui fait que dès la mi-mai, on est à peu près d'accord sur ce qui va se passer, même si les victoires françaises vont un petit peu bouleverser cet accord. Ça, c'est donc la partie Vienne négocie avec Saint-Pétersbourg. Dans le même temps, Bubna propose à Napoléon un projet d'arrangement sur la base de l'abandon par la France de tous les pays annexés à la droite du Rhin en 1810 et l'abandon du duché de Varsovie. Comme rémunération de ses services pour la médiation, donc si vous faites ça, on obtient la paix, l'Autriche réclame les provinces illyriennes, c'est-à-dire cette partie yougoslave en quelque sorte, de l'Empire napoléonien qui n'avait jamais été vraiment organisé sur un mode départemental par Napoléon, parce que Napoléon souhaitait s'en servir de monnaie d'échange dans les négociations avec l'Autriche, donc finalement ça lui sert ici à quelque chose. Tout est donc calculé dès ce moment-là pour attirer Napoléon dans un piège. Proposition apparemment conciliante de l'Autriche pour parvenir à un congrès, et ces propositions feront l'objet ensuite d'augmentations progressives jusqu'à la rupture, c'est ce que nous allons voir. Alors évidemment, Napoléon n'est pas totalement dupe de la manœuvre qu'on lui propose, d'abord parce que des lettres autrichiennes ont été interceptées, donc il est bien au courant de tout ce qui se passe, mais il pense pouvoir poursuivre cette médiation autrichienne pour négocier, pour revenir dans la négociation en position de force grâce à ses succès. Alors, nous qui sommes des individus mus par des sentiments domestiques, ce genre de choses nous agace toujours en disant « oui, mais il n'avait qu'à taper sur la table », etc. Mais évidemment, la diplomatie, ça n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Je me rappelle toujours, pour vous donner une idée de ce que ça, la façon dont on peut toujours réagir par rapport à ça, c'est lorsqu'il y avait eu la libéralisation de l'Union soviétique. Les plus jeunes d'entre vous ne se rappellent pas de ce qu'était l'Union soviétique, mais les plus anciens, oui. On avait un jour posé la question à François Mitterrand en lui disant « mais est-ce que Gorbatchev est sincère ?» Et la réponse de Mitterrand, qui vaut pour tout, pour toute la vie, c'était « peu importe qu'il soit ou non sincère, l'essentiel est que tout se passe comme s'il était sincère ». Et au fond, même si, messieurs, vous l'appliquez dans votre ménage de tous les jours, c'est toujours une bonne sécurité. Et donc, c'est exactement la réaction qu'a Napoléon à ce moment-là. Il sait très bien qu'on lui joue la comédie, mais il veut faire en sorte que tout se passe comme si on ne lui jouait pas la comédie. Il va lui-même essayer de doubler Metternich, en quelque sorte, en s'adressant directement au tsar, afin de tenter de le séparer de la négociation autrichienne. C'est évidemment Caulaincourt qui est chargé de cette mission. Caulaincourt qui demande à être reçu par Alexandre Ier. Vous savez que Caulaincourt est quasiment un ami personnel du tsar. Il a été ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg. Napoléon lui reprochait à une époque son amour de la Russie en lui disant « Vous, Caulaincourt, vous êtes devenu totalement russe ». Caulaincourt veut être reçu par Alexandre et c'est Nesselrod qui lui répond en lui disant qu'il n'est pas question qu'il ait un accès direct au tsar. Il lui fait savoir que puisqu'il y a une médiation autrichienne, il sera bien aimable de faire passer ses communications par le gouvernement autrichien. Deux jours plus tard, c'est la victoire de Bautzen qui ne modifie pas tellement la situation. Le roi de Prusse, évidemment, panique. Les coalisés manquent de munitions, ça nous rappelle quelque chose. Excusez-moi, excusez-moi, dans cette enceinte, c'est vrai que je devrais me garder de ce genre de choses. Les troupes de la coalition manquent de munitions, les effectifs de la coalisée sont, de la coalition, pardon, sont en train de fondre, et ça ne provoque pas pour autant la panique au sein de cette coalition. Le tsar se tourne vers Vienne, lui demande confirmation de sa décision à un moment donné d'entrer dans le conflit. Metternich écrira dans ses mémoires « Mon parti était pris, il s'agissait d'arrêter Napoléon dans sa marche en avant et de fixer l'empereur Alexandre et le roi Frédéric Guillaume sur la résolution que prendrait l'empereur mon maître. » Alors il ne s'agit évidemment pas de la part de Metternich d'un modèle de rectitude morale, mais la contre-manœuvre autrichienne est assez habile. Habile parce que n'oublions jamais que la vie politique, la vie diplomatique de l'époque ne se résume pas à être pour ou contre Napoléon. Ah, nous qui sommes tous un peu napoléoniens, enfin surtout vous. On voit le monde en pour ou contre Napoléon. En réalité, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. La vie diplomatique internationale a continué à exister sous Napoléon avec les mêmes forces profondes qu'elle avait toujours eues. Simplement, Napoléon a un petit peu agité le cocotier un peu plus fort que les autres. Mais l'Autriche n'était toujours pas plus amie avec la Russie qu'elle l'avait été dans les siècles précédents. La Prusse et l'Autriche restaient toujours des ennemis objectifs. Au fond, les seuls alliés objectifs des conflits européens à l'époque napoléonienne, sur certains points, c'est la France et l'Angleterre. Ça paraît tout à fait étonnant, mais c'est comme ça. Sur le long terme, les seuls alliés objectifs, c'est la France et l'Angleterre, tout simplement parce qu'ils souhaitent tous les deux priver la Russie d'entrer dans la Méditerranée, constante de la politique française et anglaise. Et puis deuxièmement, pour permettre cela et empêcher aussi une expansion trop forte de l'Autriche, ils souhaitent défendre, protéger, faire survivre l'Empire ottoman. Ce sont des objectifs, nous, bon, c'est vrai qu'en histoire napoléonienne, on ne parle pas souvent de ces problèmes-là, puisqu'on suit toujours Napoléon partout. Hein, alors comme il n'est jamais allé à Constantinople, ça ne nous intéresse pas beaucoup, mais c'est un aspect extrêmement important de la politique européenne de l'époque. Donc, évidemment, on peut dire Metternich, traître, Talleyrand, traître, je ne sais plus qui encore, traître. Tout ça, en histoire, ça n'a aucune valeur. Le problème, c'est de savoir que Metternich, eh bien, il est traître à rien, parce qu'il est Premier ministre autrichien, donc il défend les intérêts de l'Autriche. Donc évidemment, il n'y a pas une grande rectitude morale dans son attitude, qui consiste à attirer Napoléon de plus en plus loin pour que le piège se referme sur la souris, mais ça fait partie du jeu, et au fond, si nous étions autrichiens, nous ferions aujourd'hui une grande conférence à la gloire de Metternich en disant « Regardez, cet homme supérieurement intelligent, comme il a réussi à piéger l'ogre ». On peut s'étonner aussi ici que Napoléon ait accepté de freiner son élan qui lui avait été donné par les succès de Lutzen et Bautzen. Mais on doit aussi faire observer que l'acceptation d'un armistice se fondait sur un certain nombre d'éléments positifs. La première raison est d'ordre militaire. Malgré ses victoires, la Grande Armée n'est pas dans une situation confortable. Elle manque de cavalerie, je vous le disais tout à l'heure. Il faut reconstituer ses troupes qui sont composées de jeunes soldats qui se dispersent, qui sont mal nourris, qui sont épuisés, qui sont assez mal équipés, ce qui nous rappelle encore quelque chose. On comptait par exemple 30 000 malades sur 155 000 hommes au sein de cette armée à ce moment-là. Et les chefs eux-mêmes, d'ailleurs, y montraient de l'agacement et de la lassitude. Rappelons que Bessières venait d'être tué au combat, que Duroc avait été tué par un boulet, et que tout ça faisait très mauvais effet. Puis plusieurs généraux aussi avaient été tués. Cela faisait très mauvais effet sur le moral. Nous y resterons tous, aurait murmuré à ce moment-là Bertrand à Marmont. C'est Duroc qui a dit ça à Marmont juste quelques instants avant de mourir. Napoléon lui-même avait été atteint par ces décès. La disparition de ses fidèles l'avait attristé, et puis il avait noté que Lutzen et Bautzen avaient été des batailles extrêmement meurtrières, contrairement globalement à ce qui se passait dans les années précédentes. On en était de plus en plus à un affrontement de front, un affrontement de choc, qui faisait que ces batailles devenaient de plus en plus meurtrières. On prenait même plus le temps de manœuvrer. Et puis Napoléon attendait à ce moment-là des renforts qui devaient venir de France, mais ces renforts tardaient. Et donc la suspension provisoire des hostilités lui permettrait d'attendre ces renforts. L'armistice permettait de gagner du temps pour mieux gagner la guerre. C'est assez souvent comme ça qu'on le présente. Deuxième raison qui explique aussi l'hésitation ou l'acceptation de l'armistice par Napoléon, c'est qu'il commence à craindre véritablement que l'Autriche entre dans la guerre. S'il veut éviter d'avoir à combattre trop tôt les contingents de Papa François, il lui faut s'attabler autour du tapis vert et essayer de faire en sorte que cette discussion aboutisse. Enfin, troisième raison qui pousse Napoléon à souhaiter une pause, c'est que les nouvelles de France sont mauvaises. L'esprit public chancelle, on a de moins en moins confiance dans le régime. Et ça n'est pas parce que Cambacérès fait tirer le canon aux Invalides et organise des Te Deum à Notre-Dame que la confiance revient. Il y a à Paris ce qu'on a appelé à l'époque les aboyeurs de paix qui n'hésitent plus à se découvrir, y compris dans leur correspondance avec Napoléon. À l'une de ces lettres d'ailleurs, qui est envoyée par le ministre de la police Savary, Napoléon répond: « Le ton de votre correspondance ne me plaît pas. Vous m'ennuyez toujours des besoins de paix. Je connais mieux que vous la situation de mon empire et cette direction donnée à votre correspondance ne produit pas bon effet sur moi. Ces matières ne vous regardent pas, ne vous en mêlez pas. » Et il y a donc énormément de correspondances de ce genre qui sont échangées entre Napoléon, ses ministres et voire d'autres dignitaires. Après l'armistice d'ailleurs, Napoléon chargera Cambacérès de mettre bon ordre dans les propos des salons et des couloirs. Citation d'une lettre: « Tous les bavardages des ministres sur la paix font le plus grand mal à mes affaires, car tout se sait. Et j'ai vu plus de 20 lettres de ministres étrangers qui écrivent chez eux qu'on veut la paix à tout prix à Paris, que mes ministres me le mandent tous les jours. C'est ainsi qu'on peut rendre la paix impossible. Il faudrait qu'au lieu de ce ton pacifique, on prît un peu un ton guerrier. On a à Paris des idées bien fausses si l'on croit que la paix dépende de moi. » Là aussi, à la fin de la lettre, il y a une sorte d'aveu de Napoléon. Le 26 mai 1813, le jour même d'ailleurs où Napoléon apprend l'entrée de l'armée suédoise à Hambourg, Napoléon accepte qu'un armistice soit négocié à condition qu'il soit suivi d'un congrès. C'est-à-dire qu'il veut bien une suspension d'armes, mais il faut qu'on discute de la paix, ce qu'il vient d'écrire à Cambacérès tout à l'heure, si je puis dire. En attendant, les opérations continuent, ce qui fait que Davout va reprendre Hambourg et va d'ailleurs commencer à punir les notables locaux, non pas en les fouettant, mais ce qui fait toujours mal aux notables locaux, en leur imposant une contribution exceptionnelle qui permettra d'améliorer le quotidien de son armée. À Leichnitz, Caulaincourt rencontre le russe Chouvalov et le prussien Kleist. Avec le premier, il a des conversations approfondies dans lesquelles il annonce ni plus ni moins qu'il faut résoudre la crise, y compris sans l'accord de Napoléon. Pas mal pour un ministre des Relations extérieures. Et finalement, le 4 juin 1813 à Pleiswitz est signé le fameux armistice dont nous avons commencé à parler. Il suspend les hostilités jusqu'au 20 juillet. Plus un délai de 6 jours pour le dénoncer. Il fixe des lignes de front telles qu'elles sont établies à la date du 8 juin. Donc du 4 juillet au 20 juillet, on va arrêter de se battre. Et puis ensuite, on aura encore 6 jours pour dénoncer cet armistice. Le texte est muet sur la réunion d'un congrès, mais l'intention de Napoléon est qu'il ait vraiment lieu. Prague a déjà été proposée par les Autrichiens pour accueillir cette réunion. Rentrant à Dresde après avoir reçu le texte de Pleiswitz, Napoléon aurait dit « Si les alliés ne veulent pas de bonne foi la paix, cet armistice peut nous être fatal. » N'aurait pas su mieux lire l'avenir, mais il est vrai aussi que cette citation de Napoléon, qui est tirée des mémoires de faim, a été écrite par le secrétaire de l'empereur 12 ans après les faits, à un moment où, évidemment, il était facile de faire dire des choses à Napoléon pour peut-être faire croire à la postérité qu'il avait déjà tout compris. Les coalisés, de toute façon, ne se sont pas laissés ou ne se laissent pas endormir par la signature de cet armistice. Le 12 juin, les ministres de la coalition, Hardenberg pour la Prusse, Stadion pour l'Autriche et Nesselrode pour la Russie, se réunissent pour élaborer une position commune en vue du fameux congrès qui va se réunir à Prague, en y ajoutant, à destination de Napoléon, des exigences qui, à ce moment-là, sont inacceptables pour lui. La France doit abandonner le duché de Varsovie, doit restituer l'Illyrie à l'Autriche, rétablir la liberté des villes hanséatiques qui ont été annexées en 1810 et remettre Danzig à la Prusse. Si Napoléon accepte, prévoit déjà l'accord de ses ministres, on poussera à la rupture en exigeant la dissolution de la Confédération du Rhin et la reconstitution de la Prusse dans ses frontières de 1805, ce qui entraîne notamment la fin du royaume de Westphalie. Donc on le voit bien, dans la coulisse, les alliés ont décidé immédiatement que tout ça ne sera qu'une comédie, hein, puisque si Napoléon accepte les premières conditions, on en enverra de deuxièmes. Le 14 juin 1813, à Reichenbach, la Prusse et l'Angleterre, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'Angleterre, signent un traité par lequel elles s'engagent mutuellement à poursuivre la lutte jusqu'à la fin du système napoléonien. La Russie adhère le lendemain à ce traité, donc le 15 juin. Les deux puissances continentales, Russie-Prusse, acceptent de ne pas signer la paix sans avoir l'accord de Londres, qui débloque au passage 2 millions de livres sterling pour asseoir cette stipulation, si l'on peut dire. Habilement, donc, l'Angleterre vient de s'octroyer la possibilité d'ajouter des clauses aux futurs accords. Puisqu'elle doit donner son accord pour la paix, rien ne l'empêche d'ajouter de nouvelles stipulations, comme l'abandon de la Hollande ou la restitution de l'Espagne aux Bourbons. Donc on le voit, de plus en plus, l'étau se resserre autour de Napoléon. Le 27 juin 1813, l'Autriche signe avec la Prusse et la Russie un second traité au même endroit à Reichenbach, par lequel elle accepte de prendre à son compte, le programme des autres puissances, c'est-à-dire ce que je viens de vous décrire, et qu'en cas de reprise des hostilités, elle ajoutera la reprise de ses anciennes possessions d'Italie aux stipulations particulières. Donc on le voit bien, dès ce mois de juin 1813, le démantèlement de l'Empire napoléonien est, par esprit d'escalier ou en cascade, comme vous préférerez, inscrit dans les accords passés entre les alliés. Avant même que le congrès de Prague ait débuté, on sait que celui-ci ne sera, dit fin, qu'une comédie de mauvaise foi, uniquement destinée à rejeter sur Napoléon l'odieux de la poursuite de la guerre. L'armistice avait probablement été une erreur. Le congrès est un piège dans lequel Napoléon va tomber. Napoléon entrevoit que ce piège est en train de se former contre lui lors d'une conversation qu'il a eue à Dresde avec Metternich le 26 juin 1813. Il existe deux versions principales de la joute verbale qui a opposé l'empereur au chancelier. La première est favorable à Napoléon, elle émane de Fin, qui n'était pas là, mais qui a utilisé, nous dit-il, le témoignage de Marais, qui, lui, n'a pas laissé de mémoire, en tout cas pas connu. La seconde version a été écrite par Metternich lui-même et, évidemment, il s'y donne le beau rôle. Ce qui est certain, c'est que l'entrevue entre les deux hommes a été orageuse. Les deux interlocuteurs ne se sont pas ménagés, l'étiquette étant provisoirement mise de côté. « Vous voulez la guerre, vous l'aurez », aurait lancé Napoléon en guise de préambule. Et comme Metternich lui faisait remarquer qu'il était encore temps de faire la paix aux conditions autrichiennes en acceptant le congrès, il est obligé de suivre l'empereur dans son cabinet de travail et d'écouter de la part de Napoléon l'énumération de ses propres forces. Perdant son calme, même, Napoléon menace tempête devant un chancelier qui reste, lui, flegmatique et ironique. Vous savez que Napoléon jette son chapeau par terre, enfin, etc. Vous avez dû déjà lire 1000 fois cette scène. Selon Fin, à bout d'arguments, Napoléon aurait lancé à Metternich « Ah, Metternich, combien l'Angleterre vous a-t-elle donné pour me faire la guerre ?» L'orage s'apaise et, reconduisant son visiteur, Napoléon lui dit qu'il est convaincu que l'Autriche ne lui fera pas la guerre, qu'il y a encore une bonne chance de faire la paix. À ce moment-là, selon ses mémoires, Metternich lui aurait dit « Vous êtes perdu, sire. J'en avais le pressentiment en venant ici, Maintenant que je m'en vais, j'en ai la certitude. Probablement, ni l'une ni l'autre réplique n'ont jamais été prononcées, mais ça permet de donner à Christian Clavier quelques occasions de nous montrer ses grandes qualités d'acteur. En tout cas, cette réplique ne figure ni dans la version de fin, ni dans celle de Metternich. Elle a été inventée par la suite. D'ailleurs, le chancelier rend compte à François Ier de cette rencontre en lui écrivant « Cette longue séance a été un bizarre mélange d'objets hétérogènes, une série de démonstrations d'amitié alternant avec les sorties les plus violentes. » De toute façon, Metternich n'était pas encore venu à Dresde pour rompre avec la France. Il reste quelques jours dans la capitale saxonne. Il revoit Napoléon le 30 juin pour un entretien plus calme, presque technique, sur les conditions de la paix. L'empereur accepte officiellement à ce moment-là la médiation autrichienne, un pas de plus, qui devra donc s'accomplir ou s'exprimer ou fleurir à Prague, où le congrès est programmé le 10 juillet. L'armistice est dès lors prolongé, donc il devait s'arrêter le 20 juillet, je vous rappelle, il est prolongé jusqu'au 10 août à minuit. Metternich avait obtenu le premier rôle pour l'Autriche, alors que l'Autriche était à ce moment-là un petit peu suspendue dans les airs, pour suivre les opérations politiques, mais aussi militaires, puisque l'armée autrichienne n'avait pas encore donné. De son côté, après tous les espoirs de ses victoires du printemps, Napoléon venait d'entrer vraiment de plein pied dans le piège qui lui avait été tendu. La situation de l'Empire n'était pas très bonne. Les victoires de Saxe avaient, en quelque sorte, été annulées par la menace de plus en plus réelle de voir l'Autriche rejoindre la coalition. Par ailleurs, tandis qu'on se battait au nord-est, le sud du système continental vacillait, puisque, en quelques mois, l'Espagne allait être perdue, tandis que Murat ne savait pas comment résister à la tentation de sauver seul son trône de Naples, y compris en jouant contre Napoléon, ce qu'il allait faire quelques mois plus tard. Comme il fallait donc s'y attendre, le congrès de Prague se solda par un échec. Rigidité des positions françaises, d'un côté, qui permet au piège tendu par Metternich de se refermer sur Napoléon. Il allait donc falloir encore et toujours faire la guerre. Sur ce terrain aussi, l'édifice napoléonien se mettait à branler sur ses bases. Il y eut la belle victoire de Dresde qui ne servit à rien car ses effets furent annihilés par les défaites des troupes que Napoléon ne commandait pas tant personne, tout cet été 1813 dont on va étudier la fin maintenant est véritablement décisif dans l'épisode napoléonien. Le front espagnol va s'effondrer, Murat prend ses premiers contacts, et puis la diplomatie française patine jusqu'à voir entrer l'Autriche dans la coalition. Retour un tout petit peu en arrière, le 30 juin 1813, au moment où Metternich quitte Dresde, Napoléon le rappelle pour lui dire qu'il accepte la médiation autrichienne, et donc on accepte et on décide la prolongation de l'armistice jusqu'au 10 août et la tenue du congrès de Prague. Le plan du chancelier autrichien a parfaitement réussi. La nouvelle date limite des négociations laisse à l'état-major autrichien le temps de parfaire l'organisation de son armée. Et ça, c'était une des conditions que les militaires avaient posées à Metternich. Il a pourtant de grandes difficultés à faire admettre l'idée du congrès aux belligérants qui souhaitaient reprendre la lutte sans attendre. Je parle aux belligérants de la coalition. Le tsar, à ce moment-là, qualifie même Metternich de valet de Napoléon. Parce que, si vous voulez, le jeu est devenu tellement compliqué que plus personne ne croit personne. Puis nous, en plus, nous avons l'avantage, 200 ans après, d'avoir eu accès à tous les documents. Mais il faut ajouter en plus que tout le monde ne se dit pas tout, hein, et y compris entre alliés à ce moment-là. Je veux dire, pour les plus jeunes d'entre nous, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, essayons de se mettre ça dans la tête. On est à peu près dans une situation semblable, c'est-à-dire avec à la fois des alliés qui combattent ensemble mais qui se détestent. Et c'est vrai entre l'Occident et l'Orient, c'est-à-dire entre les alliés occidentaux et la Russie, mais c'est vrai aussi à l'intérieur de l'Alliance occidentale, où la France libre et les États-Unis sont au plus mal, où l'Angleterre et la France sont au plus mal, mais veulent les aider contre les États-Unis, ainsi de suite. Donc, si vous prenez tout ça, vous arrivez à une situation semblables, hein, Napoléon ou pas, si je puis dire. Donc le tsar qualifie Metternich de valet de Napoléon, et bien sûr, il ne faut pas croire une seconde que Metternich voulait éviter une nouvelle défaite russe en créant en permettant la réunion du congrès de Prague. Évidemment, lui, il s'en fichait complètement que les Russes soient battus. Ce qu'il voulait, lui, c'est remettre l'Autriche dans le jeu européen à ce moment-là. Le délai qu'il avait accordé à Napoléon n'était destiné qu'à ménager les intérêts de l'Empire des Habsbourg, soit, d'une part, augmenter le rôle de l'Autriche dans la négociation, et d'autre part, permettre aux préparatifs militaires de se terminer. Bon gré mal gré, bien qu'il ait eu besoin de l'intervention de Vienne, le tsar et le roi de plus de... Oh là là, je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête, il y a trop de lapsus là. Marquer le roi de plus pour Frédéric Guillaume III, c'est plutôt bon. Bon gré mal gré, donc, parce qu'ils avaient besoin de l'intervention de Vienne, le tsar et le roi de Prusse prirent leur mal en patience et acceptèrent le congrès. Et d'ailleurs, ils l'acceptèrent en faisant un petit peu traîner, puisque c'est seulement le 26 juillet, donc c'est-à-dire 14 jours avant la fin de l'armistice, qu'ils acceptent d'y participer en signant une convention dans la ville de Neumark. Citons ici Albert Sorel, grand historien de l'histoire diplomatique de cette époque, qui écrit « Ainsi, ce délai que Napoléon consentait par condescendance envers l'Autriche et en vue de s'en procurer l'alliance, ou du moins de s'en assurer la neutralité, l'Autriche l'employait d'accord avec les alliés à préparer l'agression formidable des trois alliés réunis contre Napoléon. » Cependant, si l'entrée de l'Autriche dans la guerre en cas de rejet par la France de ses propositions ne faisait plus aucun doute, les coalisés, je vous le signalais, et on ne le signalera jamais assez, restaient divisés sur ce qu'on allait tenter d'imposer à la France. Les bases de la paix établies par Nesselrode, Hardenberg et Stadion restaient en discussion malgré les différents traités qui ont été signés. Au départ, Metternich ne voulait vraiment se battre que pour la dissolution du duché de Varsovie et le retour à la Prusse de cette région-là, plus peut-être Danzig. Surtout, ce qui lui importait, c'était le retour de l'Illyrie à l'Autriche et éventuellement, comme pourboire, le retour ou le rétablissement des villes hanséatiques. En revanche, il rechignait à soutenir les autres points, la dislocation de la Confédération du Rhin, le rétablissement du territoire prussien d'Avant-Tilsit en Allemagne, alors que bien sûr, évidemment, Berlin n'était pas de cet avis, et que la Russie trouvait presque naturel de venir se mêler ou de venir se remêler des affaires allemandes. Donc on le voit encore une fois, des diplomaties extrêmement imbriquées, et vous avez noté que dans les 40 dernières secondes, je n'ai pas prononcé une seule fois le nom de Napoléon, ce qui montre bien que les puissances n'avaient pas besoin de Napoléon pour se chamailler. En revanche, elles avaient besoin de Napoléon pour s'unir, puisqu'il allait devenir petit à petit le plus petit dénominateur commun de cette coalition. Il allait le devenir sous la pression de Londres, parce que, au fond, les seuls qui n'avaient aucun intérêt direct territorial sur le continent, c'était bien les Anglais. Eux, ce qui les intéressait, et d'ailleurs c'est toujours ce qui les a intéressés, ce ne sont pas des questions territoriales de petits bouts à gauche et à droite, c'était de rétablir ce qu'ils appellent l'équilibre européen, c'est-à-dire une mosaïque de puissances moyennes qui se neutralisent les unes les autres, mais surtout, ne gênent pas l'équilibre général du commerce, en quelque sorte, en Europe. Parce que, et probablement nous le trouvons péjoratif, mais c'est comme ça qu'elle est conçue, la diplomatie britannique, c'est une diplomatie de commerçants. Pour un Britannique, les affaires et la diplomatie, c'est la même chose. Et il l'affiche. Pour les Français, c'est la même chose, mais ils ne l'affichent pas. Et puis, dans toute cette affaire, donc, l'Angleterre, elle, non seulement paye, mais elle veut avoir, comment dire, le résultat de son investissement. Je fais une petite parenthèse pour vous rappeler toujours un chiffre qui est extrêmement, extrêmement frappant. C'est que l'Angleterre était un pays tellement puissant sur le plan économique à cette époque-là qu'elle pouvait emprunter à peu près tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait emprunter pour faire la guerre, elle pouvait emprunter pour investir dans son industrie. Et on estime qu'entre 1792 et 1815, l'Angleterre a emprunté entre 5 et 7 fois la masse monétaire mondiale. C'est-à-dire que, elle avait l'espoir de pouvoir le rembourser, c'est une chose, et d'ailleurs, elle l'a remboursé notamment par une pression fiscale intérieure beaucoup plus forte que la pression fiscale napoléonienne en France, hein, ça il faut le savoir, et puis surtout, on lui prêtait parce qu'on avait confiance en elle, hein. Et on a eu confiance dans l'Angleterre toujours. Il y a des gens, même très bien placés, qui faisaient la guerre à l'Angleterre, qui ont eu confiance en elle. Napoléon a placé des avoirs à Londres. Talleyrand a placé des avoirs à Londres. Et tout le monde a placé ses avoirs à Londres. Donc, si vous voulez, tout ça est bien compliqué. Mais même l'empereur des Français et son entourage avaient confiance dans l'Angleterre à laquelle ils faisaient la guerre. C'est quand même ce qui montre bien qu'il y a une différence entre la maison de l'empereur et le budget de l'État. Donc après tous ces débats internes à la coalition, les Prussiens, les Russes et les Autrichiens décidèrent que pour mouiller tout le monde et pour pouvoir bien continuer à cimenter cette coalition, on allait inviter des Anglais et des Suédois à participer au congrès de Prague. Bon, on n'était pas d'accord sur grand-chose au sein de la coalition, si ce n'est que... l'occasion était assez bonne de pouvoir se débarrasser du système napoléonien en Europe. Et comme je vous le disais, c'est ce plus petit dénominateur commun qui fut retenu et qui, au fond, ne donnait pas une grande marge de manœuvre à Napoléon. Parce qu'une fois qu'on avait donné cet objectif général, eh bien, chacun y allait de son objectif particulier, ce qui évidemment, le coinçait. Finalement, convaincu que la paix ne pourrait être obtenu que par le retour des puissances à leurs anciennes limites, disait-il, Metternich finit par adapter sa position. Il proposa en quelque sorte un retour général, on va simplifier, à l'Europe d'avant 1805, c'est-à-dire avant la première défaite autrichienne, évidemment, ce qui tombait plutôt bien, mais aussi avant la défaite prussienne de 1806, qui avait quand même été, sévèrement célébrée dans les traités par Napoléon. Ces principes, donc, qui allaient guider maintenant la diplomatie de Metternich, et on voit bien le resserrement de la position politique de Metternich pour continuer à coller avec la coalition, pour continuer à d'abord s'intégrer dans la coalition, puis ensuite en prendre la tête, comme ça va être le cas après la chute de Napoléon, au moment du congrès de Vienne, que Metternich va véritablement dominer. De son côté, Napoléon, évidemment, pendant ce temps-là, a bien senti le danger, et il a essayé de se servir de son épouse, Marie-Louise, pour qu'elle intervienne auprès de son papa. Le 1er juillet, par exemple, 1813, Napoléon écrit à Marie-Louise « Metternich que j'ai vu me paraît fort intrigant et fort mal conduire papa François. » Le 6, il ajoute « La paix se ferait si l'Autriche ne voulait pêcher en eau trouble. L'empereur est trompé par Metternich qui s'est vendu pour de l'argent aux Russes. C'est d'ailleurs un homme qui croit que la politique consiste à mentir. » Drôle d'idée. En même temps, l'empereur lui-même ne jouait pas totalement le jeu du congrès de Prague, puisqu'il se faisait prier. Alors vous voyez, tout ce temps perdu, et pendant que nous parlons, l'armistice, lui, continue à courir. Je vous rappelle que le 10 août, c'est la reprise des hostilités. Donc pendant ce temps-là, Napoléon, lui, tarde à envoyer ses représentants au congrès. Les Russes et les Prussiens ont-ils accepté la prolongation de l'armistice acceptée par Metternich? Enfin, bref, tout ça fait gagner du temps. On discute. Napoléon envoie en éclaireur à Prague Narbonne, qui est donc un de ses conseillers, mais seulement en qualité d'ambassadeur auprès de la cour de Vienne. « Je désire la paix, écrit-il à son beau-père. Si les Russes sont aussi modérés que moi, elle se fera promptement. Si au contraire ils veulent me porter à des concessions qui repoussent mon honneur et les intérêts de mes alliés, ils ne réussiront à rien. Votre Majesté, donc, cher papa François, connaît les sentiments que je lui porte. J'espère qu'elle ne se laissera pas entraîner à une guerre qui ferait le malheur de ses États et accroîtrait les maux du monde. » Le 3 juillet 1813, François d'Autriche répond à son gendre par deux lettres. Dans la première, il l'assure qu'il ne pourra trouver, je cite, « un médiateur plus dévoué à la cause de la paix et plus ami des intérêts de la France que lui ». Dans la seconde lettre, il prend note de l'engagement pris par la France de respecter la trêve jusqu'au 10 août. L'ensemble est très froid, ce que remarque Napoléon, à peine tempéré par quelques vœux polis et l'expression « très cher beau-fils » qui traîne au début de la lettre. À ce moment-là, je pense que les dernières illusions de Napoléon tombent. Il vient de comprendre qu'il n'y a pas moyen de séparer l'empereur de Metternich. Ce que nous savons aujourd'hui, parce que nous avons des documents, parce que Metternich a publié les rapports qu'il a faits et les réponses que l'empereur lui a données, nous savons qu'il n'y avait pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les deux, mais à ce moment-là, Napoléon pensait qu'il pourrait obtenir le renvoi de Metternich en passant par Marie-Louise. Finalement, Napoléon décide d'envoyer Caulaincourt le représenter à Vienne. Il pense que ce choix est agréable à l'Autriche et à la Russie. Il le reçoit à plusieurs reprises pour discuter avec lui de sa mission. Caulaincourt estime, lui, que le temps presse, que les deux victoires de Lützen et Bautzen n'ont rien à voir avec le fait que la France entre ou non en négociation, en position de force. Pour lui, il faut faire des efforts, des concessions pour obtenir la paix. L'empereur fait mine de le suivre dans cette voie et lui indique qu'il serait prêt à abandonner le duché de Varsovie, accéder à certaines demandes de la Russie et de la Prusse. Quant à l'Autriche, dit-il, elle n'a aucun droit. Il ne souhaite pas lui souhaiter à ce moment-là l'Illyrie, mais vous voyez, il garde un petit peu la monnaie pour plus tard. Caulaincourt, lui, est d'un avis totalement opposé. Il opine qu'il faut faire les concessions maintenant pour arriver à la paix et que si on inquiète beaucoup trop les puissances germaniques, elles iront à l'étage supérieur qui sera de demander la dissolution de la Confédération du Rhin. Or, la Confédération du Rhin, c'est à la fois un point d'équilibre en Europe, mais c'est une protection de la France contre la Prusse et contre l'Autriche, d'autre part. Mais tout ça, évidemment, c'est aller trop loin et Caulaincourt part avec des instructions qui ne sont pas claires de ce côté-là. Le duc de Vizance, puisque c'est le titre de Caulaincourt, est très déçu par les instructions donc, que lui donne Napoléon, qui lui demande simplement de revenir éventuellement, s'il y a des concessions à faire, à la situation de 1812, dans les instructions officielles, après les discussions, ce qui est évidemment irréaliste, puisque c'est comme s'il n'y avait pas eu de campagne de Russie. Le congrès de Prague s'ouvre le 29 juillet 1813. Sur le papier, donc, on dispose de 11 jours pour parvenir à la paix. Caulaincourt et Narbonne représentent la France, Humboldt représente la Prusse, Anstett, qui est un Alsacien, représente la Russie, et Metternich représente l'Autriche. À part l'empereur d'Autriche, aucun des coalisés n'a dépêché de diplomates de premier plan, preuve qu'en fait, on ne veut pas trop entrer dans la discussion. L'Angleterre n'est là qu'en observatrice. Bernadotte n'est pas loin, mais n'intervient pas dans la négociation. La France, dès ce moment-là, apparaît en position de faiblesse, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que, Napoléon l'ignore encore, mais l'Autriche a décidé d'entrer en guerre, quoi qu'il arrive. On l'a dit tout à l'heure. La seconde est que, en Espagne, vient d'avoir lieu la bataille de Vitoria et que c'est la fin de l'Espagne française. Donc, le front sud est en train de s'effondrer. La troisième raison est que les alliances entre la France et les États de la Confédération du Rhin commencent à se fragiliser et que les coalisés, à défaut de Napoléon, savent déjà que Murat est en train de négocier son ralliement à la coalition. Enfin, les instructions qui ont été données, les instructions officielles, écrites, qui ont été données à Caulaincourt, ne lui permettent quasiment pas de négocier. D'ailleurs, on va tarder encore à entrer dans le vif du sujet diplomatique pour des raisons de protocole, de pratiques diplomatiques. Rappelez-vous la forme de la table au moment des négociations de paix sur le Vietnam dans les années 70, où pendant des semaines, on s'est demandé si la table allait être ronde, carrée, etc. Eh bien, à Prague, alors qu'on a 11 jours, on se met d'abord à se demander comment est-ce qu'on va échanger ses pouvoirs, et ainsi de suite. Metternich a proposé qu'on n'organise aucune séance plénière, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de négociation directe, mais que chaque puissance s'adressera à l'autre par son intermédiaire, ce qui rend un petit peu les choses difficiles. Puis Metternich passe une journée à s'étonner que les représentants français n'aient pas de plein pouvoir, mais qu'ils aient des instructions restrictives, donc qu'ils soient sans arrêt obligés de demander à leur quartier général des instructions complémentaires. Alors finalement, on arrive à se mettre d'accord, il n'y aura pas de négociation directe, donc pas une salle où tout le monde va discuter, mais on va pratiquer par échange de notes, et nous sommes quand même déjà le 7 août. Il reste 4 jours à ce moment-là. La comédie diplomatique est totale, puisqu'il n'y aura donc à nouveau, je le redis, pas de négociation directe. Le 7 août, Metternich se découvre en exigeant de la France la dissolution du duché de Varsovie, l'indépendance des villes hanséatiques, la reconstruction de la Prusse, la création d'une confédération germanique à la place de la confédération du Rhin, la cession de l'Illyrie à l'Autriche. La Hollande et l'Espagne, on verra plus tard, dans un grand congrès européen qui sera réuni en présence des représentants de l'Angleterre, dit-il. L'empereur des Français doit promettre en outre de ne jamais plus bouleverser les équilibres ainsi rétablis. Donc on le voit là, le masque vient de tomber, et à la surprise même de son entourage, après une interminable réflexion marquée de plusieurs conversations avec l'ambassadeur Bubna, qui est toujours auprès de lui, Napoléon accède à la plupart des demandes qui lui sont faites. Il demande cependant que le roi de Saxe soit indemnisé de la perte du duché de Varsovie, je vous rappelle qu'il était grand-duc de Varsovie, le roi de Saxe, que Trieste ne soit pas incluse dans la restitution de l'Illyrie à l'Autriche, et qu'on discute un peu sur les villes hanséatiques, parce que le territoire danois n'est pas loin et que la Danemark est un allié. Dans son message, Napoléon donne enfin les pleins pouvoirs à Caulaincourt pour négocier. Donc on le voit, finalement, la pression, en quelque sorte, ce qui aurait pu être une simple pression de Metternich s'il n'avait pas joué double jeu, ont fait finalement céder Napoléon. Napoléon a cédé, donc l'armistice est une réussite, on va arrêter de se battre, on va négocier, et eh bien non, pas du tout, parce que la comédie va être complète. Le 10 août à minuit, comme prévu, Metternich annonce que le congrès est clos, et il l'écrit aux représentants français. « C'est avec un vif regret que je vois finir mes fonctions de médiateur, sans emporter d'un stérile essai d'arriver au résultat satisfaisant de la pacification des puissances belligérantes, une autre consolation que celle de n'avoir négligé de mon côté aucun moyen pour consommer une œuvre aussi salutaire. » Quelques minutes plus tard, arrive la réponse de Napoléon. Il refuse de la recevoir. Il tient donc de justesse, en quelque sorte, un prétexte pour être du bon côté et pour mettre en application son vieux projet, engager l'Autriche en première ligne de la réorganisation européenne. Le lendemain, d'ailleurs, Narbonne reçoit la déclaration de guerre de l'Autriche. Le quartier général de Napoléon réagit à la déclaration de guerre par l'envoi de contre-propositions encore plus avantageuses pour l'Autriche. Elles sont repoussées de la même façon. Le 14 août, Narbonne quitte Prague, presque au moment où le tsar, le roi de Prusse, le ministre anglais Charles Stuart, le général Wilson, un autre anglais, y arrivent. Caulaincourt n'est toujours pas reçu par Alexandre, Caulaincourt qui est resté à Prague, qui lui fait dire par Metternich que les concessions de l'empereur des Français ne peuvent permettre d'arriver à une pacification générale. Au même moment, dans un texte destiné à être publié par le Moniteur, Napoléon tente déjà de réfuter un à un les arguments de la déclaration de guerre autrichienne, et il écrit à Marie-Louise que son père, je cite, « a voulu la guerre par ambition et avidité démesurée ». Avant de se réjouir dans une note à Marais, dont je vous ai dit que Caulaincourt, dont c'est Marais, son ministre des Relations extérieures, le ministre des Relations extérieures, Caulaincourt n'est qu'ambassadeur à ce moment-là. Donc, dans une note à Marais, il se réjouit de cette clarification de la situation. L'Autriche médiatrice rendait toute conciliation impossible, mais l'Autriche, en se déclarant en état de guerre, nous met tous dans une position plus vraie et plus simple. L'Europe est ainsi plus près de la paix, sic, car il y a une complication de moins. Ça, c'est... Enfin, excusez-moi, mais... On l'aime beaucoup, mais quand même, il y a des moments où... Bien. Donc même si le ministre des Relations extérieures se voit prescrire dans la même note de proposer à Metternich un nouveau congrès, pourquoi pas, Napoléon sait que la guerre va reprendre très vite. Le 15 août, en fin d'après-midi, il rejoint la Grande Armée et, je vous le disais tout à l'heure, mais ce sera pour une autre fois, il remporte la victoire de Dresde quelques jours plus tard, mais en même temps, il se laisse enfermer dans une nasse autour de Dresde. Rappelons-nous que tous ces combats se situent dans une région très petite et qu'au fur et à mesure, les Alliés vont réussir à enfermer Napoléon dans Dresde avec plusieurs armées qui marchent sur lui, dont une armée autrichienne, et que c'est en voulant sortir de cette nasse que Napoléon se précipite, mais il ne pouvait pas faire autrement, évidemment, puisqu'il était encerclé, vers la bataille de Leipzig, qui, au mois d'octobre, aboutira à la première très grande défaite de l'Empire napoléonien. Alors, me direz-vous, de tout cela, il faut tirer une leçon ? Elle sera brève. Ne signez jamais d'armistice si vous n'êtes pas sûr de gagner la paix. Je vous remercie de votre attention. Merci.